BFM Business, midi, l'heure H, avec Karine Verniolle.
Bonjour, bienvenue, c'est l'heure H. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour faire un tour de l'actualité du jour. Alors au menu aujourd'hui, par exemple, l'Europe face au Brexit, le déficit commercial qui se creuse au mois de juin en France, la production industrielle qui chute en Allemagne, et si ce n'était que le début, quand on voit qu'avec Boris Johnson, le risque de no deal se rapproche de plus en plus pour le Brexit. Les 27 assurent qu'ils sont prêts au pire, on verra ça dans quelques minutes. Et puis beaucoup d'actualités aujourd'hui du côté des entreprises. On reviendra notamment sur les mauvais résultats de Disney qui prépare son arme anti-Netflix. Et puis également par exemple sur Europcar qui mise sur le marché américain. Du côté des marchés financiers, bien c'est plutôt la calmie aujourd'hui. Pas de nouvelles annonces, il faut dire. La nuit dernière, en provenance de Pékin ou de Washington, le CAC 40 est actuellement en hausse de 1,39% à 5307 points. On fait un point complet sur les marchés financiers. Juste après le journal avec Grégoire Favet. Le journal, justement, Maëlle Laurent, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour.
On commence ce journal donc avec les indicateurs du jour.
Effectivement, en France, on a connu ce matin les chiffres mensuels du déficit commercial. Un déficit commercial qui s'est creusé à nouveau au mois de juin. Il atteint 5,2 milliards d'euros. En cause, c'est le recul des exportations. Sur l'ensemble du premier trimestre, le bilan est un peu plus favorable avec un déficit de la balance commerciale qui atteint près de 27 milliards d'euros pour la France. C'est 5 milliards d'euros de moins que le chiffre enregistré au premier semestre 2018. En Allemagne, vous le disiez, ce sont les chiffres de la production industrielle qui ont été publiés ce matin. Des chiffres qui continuent d'interroger sur l'état de santé de la première économie européenne. Moins 1,5% au mois de juin pour la production industrielle par rapport à mai. C'est un chiffre qui est en deçà de ce qui était attendu. Alors, dans le détail, la construction résiste, mais les secteurs de l'auto, des machines-outils et des métaux sont à la peine. Dans ce contexte agité, le gouvernement allemand table encore sur une croissance de 0,5% pour 2019. De son côté, le gouvernement italien planche sur le projet de budget 2020 et ce sur fond de tensions au sein de la coalition. Un budget qui pourrait également raviver les tensions avec Bruxelles. Matteo Salvini estime que Rome ne doit pas réduire son déficit budgétaire en deçà des 2%. Et puis l'autre dossier phare pour l'Union européenne, c'est évidemment le Brexit. Vous en parliez, Karine. Dans ce dossier, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a appelé hier l'Union européenne et le Royaume-Uni à profiter du temps restant avant le Brexit, et ce pour explorer des voies alternatives sur la déclaration de politique commune, une déclaration qui doit fixer le cadre des relations futures entre Européens et Britanniques et qui doit compléter l'accord de retrait négocié par Theresa May, un accord, vous le savez, qui est toujours repoussé par le Premier ministre Boris Johnson, qui semble toujours privilégier un scénario de Brexit sans accord au 31 octobre.
On en reparle dans quelques instants avec notre invité sur BFM Business. Pour l'instant, à l'international toujours, Maëlle, les tensions entre Pékin et Washington et la Chine qui rejette les accusations de manipulation de sa monnaie, le yuan.
Et oui, des accusations formelles, officielles, hier venues tout droit de Washington. Alors Pékin a réagi, il clame qu'il n'a pas utilisé et qu'il n'utilisera pas le yuan pour répondre aux frictions commerciales. C'est la Banque Populaire de Chine qui a martelé ça hier. Écoutez les commentaires de Valérie Plagnol, elle est présidente du Cercle des épargnants.
On ne peut pas dire aujourd'hui que la Chine manipule sa devise dans le sens d'un affaiblissement, d'une dépréciation, puisque c'est de ça dont il est question comme accusation, mais plutôt qu'elle tente de soutenir le cours et limiter en fait cette dépréciation au regard effectivement de conditions économiques qui se sont dégradées à l'intérieur et bien sûr à l'extérieur, puisque tout ça résulte quand même de l'escalade dans cette guerre commerciale.
Et justement alors, quel a été l'impact jusqu'à présent de la guerre commerciale sur les fondamentaux de l'économie chinoise?
Alors, c'est vraiment un facteur aggravant au moment où la Chine est en situation de ralentissement. On l'a vu l'année dernière, on n'en a pas effectivement l'idée à travers les chiffres officiels, mais on voit bien que les indicateurs corroborent en fait l'idée que nous sommes dans une phase de ralentissement de l'activité. Et comme aux États-Unis d'ailleurs, le ralentissement du commerce se fait sentir en Chine. Beaucoup d'entreprises étaient fortement endettées. On voit des tensions supplémentaires, notamment autour de tout ce qu'on appelle la sphère des petites et moyennes entreprises. Et malgré l'intervention de la Banque de Chine, qui a quand même essayé de libéraliser le crédit, la situation reste quand même assez tendue en Chine et dégradée parce que le secteur manufacturier est en difficulté. Là aussi, on le voit, et les exportations souffrent, c'est clair.
Valérie Plagnol, présidente du Cercle des épargnants, ce matin dans Good Morning Business. Dans l'actualité des entreprises, ultime publication de résultats en Europe dans le secteur bancaire ce matin. UniCredit et Commerzbank ont présenté leurs résultats pour le deuxième trimestre. Résultats supérieurs aux attentes pour Commerzbank avec un bénéfice net de 271 millions d'euros sur le trimestre. Et à l'inverse, UniCredit, qui a justement été cité ces dernières semaines comme potentiel acquéreur de Commerzbank, n'est pas parvenu à atteindre le consensus des analystes avec un résultat net d'1,9 milliard d'euros. UniCredit comme Commerzbank qui continue de souffrir de l'environnement de taux bas.
Et puis, sacrée déception pour Disney.
Et oui, Disney qui publiait hier soir ses résultats pour le troisième trimestre. Ils sont moins bons que prévu. Malgré un chiffre d'affaires en hausse, son résultat net est lui en baisse de plus de 50% par rapport à la même période l'an dernier. C'est qu'il faut digérer pour Disney le rachat de Fox, un rachat à 71 milliards de dollars en mars dernier. Et puis surtout, Disney est en train d'investir gros dans son arme anti-Netflix, Guillaume Allier.
Enchaîner les succès en salle ne suffit pas. Alors que Disney bat tous les records avec les Avengers, Captain Marvel ou encore le Roi Lion, ses résultats financiers, eux, déçoivent, plombés par de lourds investissements. Disney mise notamment beaucoup sur le streaming et compte bien devenir un géant du secteur. Dans cette optique, le rachat de la Fox lui a notamment permis d'acquérir 66% de la plateforme de séries télé Hulu. Par ailleurs, le roi de l'entertainment lancera en novembre prochain son propre service de VOD appelé Disney+. Pour 6,99$ par mois, il sera possible de voir et revoir tous les classiques du studio, ainsi que l'ensemble des films Pixar, Marvel et Star Wars. Une autre offre à 12,99$ permettra en plus d'accéder aux plateformes Hulu et ESPN+ pour le sport. Dans un secteur où les concurrents se multiplient, le PDG de Disney, Bob Iger, a d'ores et déjà donné rendez-vous dans 2 ans pour constater le succès de sa stratégie.
Retour en France avec le groupe Bertrand, le numéro 2 de la restauration en France, qui va lancer une OPA sur le groupe Flo. Alors, le groupe Bertrand est déjà actionnaire de contrôle du groupe Flo, mais en rachetant les actions qu'il ne possède pas encore, le groupe Bertrand veut une intégration entière de Flo dans son périmètre pour mieux la redresser. Flo, qui possède notamment les marques Hippopotamus et plusieurs brasseries parisiennes, connaît effectivement des difficultés depuis plusieurs années. C'est donc une politique d'acquisition agressive qui se poursuit pour le groupe Bertrand, qui vient de racheter il y a quelques mois la chaîne Léon de Bruxelles. Et toujours dans la restauration, mais la restauration à domicile, cette fois, les livreurs Deliveroo sont en grève à nouveau aujourd'hui. Un mouvement entamé la semaine dernière après que la plateforme a modifié sa grille tarifaire. Deliveroo veut booster et donc rentabiliser ses livraisons, moyennes et longues distances.
Ça y est, les soldes d'été sont terminés, Maël, depuis hier soir. Et finalement, c'est pas si mauvais que ça.
Effectivement, Karine, les premières estimations sont tombées ce matin. Elles sont plutôt positives. De quoi améliorer les résultats des enseignes, largement plombées cette année par le mouvement des Gilets jaunes. Premier bilan de la période avec Laura Cambeau.
Les soldes d'été 2019 s'annoncent comme un bon millésime avec un bilan assez favorable. C'est ce qu'affirme le président de la Fédération nationale de l'habillement qui a dévoilé les premières estimations. Par rapport aux soldes d'été de l'an dernier, la fréquentation des magasins a augmenté de 1,5%. Autre chiffre positif, toujours d'après la Fédération nationale de l'habillement, le panier moyen a progressé de 6%. Des ventes qui sont donc globalement meilleures que l'année dernière. Cette période a été ponctuée par des records de chaleur. Avec cette canicule, les premiers gagnants sont d'abord les sites de vente en ligne, mais aussi les grands magasins et centres commerciaux climatisés largement plébiscités. La persistance des températures élevées a favorisé l'écoulement des stocks de vêtements d'été. Des températures qui ont, au contraire, été défavorables aux petits magasins moins bien équipés. C'était la dernière fois que les soldes duraient 6 semaines, les prochains en dureront 4. Avec cette nouvelle durée, les commerçants espèrent faire des soldes, de nouveau un rendez-vous incontournable.
Et pour finir, cette rumeur sur Airbus qui pourrait être une bonne nouvelle si elle se confirmait, selon Reuters, Airbus devrait ouvrir une nouvelle ligne d'assemblage à Toulouse, une ligne consacrée à l'A321neo, Toulouse qui serait préférée à Hambourg, où est actuellement concentrée la production de l'appareil. Airbus prépare actuellement sa réorganisation dans la perspective de l'arrêt de son programme A380.
Merci beaucoup Maëlle Laurent pour le journal. On vous retrouve à 12h30.